Écho d'économie. Sur Radio Okapi, la vie économique du Congo a une vitrine. Écho d'économie. 18h15, heure de Kinshasa, un magazine qui prend la température. Les marchés, la vie des entreprises, le monde rural, des questions se posent, nous y répondons clairement. Les bonnes initiatives, une nouvelle idée, reportage sur le Congo qui bouge. 18h15, Écho d'économie, une émission de référence qui parle à tout le monde.
En RDC, les problèmes environnementaux se posent aujourd'hui avec acuité. Et pour y faire face, les experts estiment qu'il faut réfléchir sur les stratégies pour arriver à un changement des comportements afin que les Congolais deviennent des éco-citoyens. Et en d'autres termes, l'éducation environnementale à la base est l'unique gage de succès de toutes les actions pour transformer sur le plan écologique la société congolaise. Nous parlons de l'éducation environnementale à la base. Quelle est son importance? Professeur Hilaire Mbié, voilà, encore une fois, bonjour.
Bonjour.
Alors, c'est quoi l'éducation environnementale à la base?
Avant de répondre à la question, je tiens d'abord à vous remercier pour m'avoir invité juste à la sortie de notre troisième table ronde qui est consacrée à la communication environnementale. Nous sommes à la troisième édition. La première édition a eu lieu en 2013, qui était consacrée aux stratégies de communication environnementale en RDC. La deuxième table ronde a eu lieu en 2014. Cela a été consacré aux entreprises congolaises et leur engagement dans la protection de l'environnement. Et la troisième table ronde est consacrée à la communication environnementale à la base.
C'est quoi la communication environnementale à la base?
Bon, d'abord, la communication environnementale est souvent associée aux notions de l'éco-citoyenneté, de formation et de diffusion de la culture, dont le but est de changer les pratiques de l'humanité dans le domaine de l'utilisation et de la gestion des ressources de la terre.
C'est ça qu'on appelle l'éco-citoyenneté.
On peut aller plus loin, mais en tout cas, on va y arriver.
D'accord.
Mais en ce qui concerne ce que nous faisons, surtout pour l'éducation environnementale à la base, c'est en ce qui concerne surtout le changement des comportements écologiques. Quels sont les gestes que je dois poser pour préserver la terre, pour préserver les ressources naturelles, pour préserver l'environnement? Alors, je dois prendre conscience de certaines catastrophes qui arrivent, pourquoi il y a ces catastrophes et qu'est-ce qu'il faut faire pour les éviter. Alors, on est parti d'abord de séminaires enseignés à l'Université catholique depuis plus de 5 ans. Et ces séminaires, communication environnement, nous a abouti à la table ronde. Et nous nous sommes rendus compte que la plupart de tout ce que nous faisons se limite au niveau de auditoires, des grandes salles bien climatisées, mais qu'à la base, il n'y a pratiquement rien. Alors, qu'est-ce que nous entendons par la base ici? Ce sont les différents espaces que je considère comme étant des espaces éco-éducatifs, des espaces
éco-éducatifs, par exemple
la famille.
La famille.
C'est déjà à la base. Après la famille, il y a l'école. L'école primaire, l'école secondaire, et puis l'enseignement universitaire. J'ajoute aussi la communauté. Et c'est comme ça que dans mes recherches, je me suis inspiré de ce qui se passe ailleurs pour proposer ici chez nous ce que le colloque a essayé d'exploiter, ce que nous avons appelé les éco-quartiers. Ça, c'est au niveau de la communauté. Alors, les éco-quartiers nous ont été inspirés par les communautés ecclésiales vivantes, de l'église catholique, les CVB, comme on les appelle, les communautés exilées de base, sont des petits groupes, des petites entités à taille humaine. Donc, composées, ça sont les éco-quartiers, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Alors, les éco-quartiers, ce n'est pas comme on le comprendrait ailleurs, dans le sens de l'aménagement d'une agglomération selon les normes environnementales, mais ici, nous voudrons arriver à un petit groupe de 15 à 20 personnes qui se chargerait dans un quartier, par exemple, de sensibiliser les habitants, les riverains de ces quartiers, à ce qui concerne les problèmes environnementaux. Par exemple, quelqu'un qui est membre d'un éco-quartier, qui verrait les lampes du voisin allumé toute la journée peut passer pour lui dire, s'il vous plaît, les lampes sont allumées, par exemple. C'est un tuyau d'eau d'énergie des eaux qui coule, c'est du gaspillage. On peut aller informer le service qu'il y a un tuyau qui est cassé, qui est troué quelque part.
Il faut venir réparer.
Ça, c'est en ce qui concerne les écoquartiers. Mais je me dis déjà, même déjà en famille, nous pouvons déjà apprendre à nos enfants, parce que l'éducation environnementale concerne tous les citoyens, de tous les âges, de tous les milieux.
Donc on retient que l'éducation environnementale à la base, c'est une éducation pour préserver l'environnement qui est faite au niveau de, en famille, dans les écoles, dans la
qui
communauté.
Qui est faite au niveau de certains espaces que moi j'ai
qui sont la famille.
Des espaces éco-éducatifs.
Éco-éducatifs qui sont la famille.
Comme la famille.
L'école, dans la communauté, le quartier.
Voilà. Il y a aussi, moi-même aussi, j'ai repris dans l'argumentaire du colloque une phrase de Nicolas Hulot, celui qui présentait à l'époque l'émission Thalassa. Oui, Thalassa, si je ne me trompe pas. Bon, Ushuaïa, pardon. Allez, Ushuaïa.
Qu'est-ce qu'il avait dit exactement?
Il a dit que l'environnement commence devant notre porte. Et à Lingala, on dit aussi, je traduis en français, si vous voulez que les quartiers soient propres, commencez par votre propre parcelle. C'est dans ce sens que moi-même,
parfois, mettez de la propreté chez vous déjà.
Commencez déjà par appliquer chez moi. Oui. Alors, chez moi, c'est pas seulement moi individuellement, c'est moi inclus dans la famille. Alors, c'est pour ça que les parents devront aussi avoir être informés pour former les enfants aussi. Est-ce qu'il y a un enfant qui mange la banane? Où doit-il jeter la peau de banane? Bon, est-ce que maman doit brûler les déchets ménagers en présence des enfants? Alors, il y a tout un tas de principes que nous devons apprendre à nos enfants. D'abord, apprendre nous-mêmes, apprendre à nos enfants pour que chacun de nous soit un éco-citoyen.
Alors, professeur, il est en billet. Mais en quoi l'éducation environnementale à la base est-elle importante?
C'est comme toute éducation normale. Elle doit commencer à la base. C'est pour cela que nous, au niveau de l'enseignement, nous distinguons l'instruction et l'éducation. Vous pouvez trouver un homme très intelligent, mais qui n'est pas bien éduqué. Alors, moi, j'ai réfléchi en me disant qu'on peut bien, dès la base, donner à l'enfant des principes environnementaux. C'est-à-dire, en famille, à l'école, on peut même aller plus loin. Oui, mais au niveau même dans les milieux professionnels, on peut aussi...
Quand vous parlez des communautés, on voit aussi les églises.
On voit la communauté de base dans laquelle je vis, etc. etc. Alors, si à la base, on a des principes, on les maîtrise, je pense qu'on va grandir avec, et plus loin, on sera des bons éco-citoyens. Parfois, je dis aux amis avec lesquels je discute que nous ne serons pas des bons éco-citoyens. Ce sont nos enfants qui seront des bons éco-citoyens. Parce qu'ils vont l'apprendre déjà au niveau de l'école. Si vous avez lu la nouvelle loi cadre consacrée à l'enseignement, la loi est claire à son article 17. L'enseignement national assure une éducation environnementale, une formation au développement durable et au changement climatique dans le but de préparer les élèves, les étudiants et les autres apprenants aux problèmes de l'équilibre écologique.
D'accord,
ça,
professeur.
C'est la loi.
D'accord.
Oui.
Alors dites-nous, quels sont les gestes qu'on doit déjà inculquer aux enfants à la base? Ou déjà inculquer à la base pour préserver l'environnement? Quels sont ces gestes?
Les gestes, il y en a beaucoup.
Bon,
je vais citer entre autres, par exemple, l'utilisation de l'énergie, par exemple.
Oui.
Est-ce qu'on doit apprendre à l'enfant que il ne doit pas laisser la lampe allumée dans une pièce qui n'est pas occupée? On peut apprendre aux enfants aussi la gestion de l'eau. Souvent chez nous, il y a du gaspillage de l'eau. Quelqu'un qui brosse les dents et qui laisse le robinet ouvert et l'eau coule. Ça, c'est un mauvais usage de l'eau. L'assainissement de l'espace familial même. C'est un éco-geste. Il y a tout un tas de éco-gestes que nous pouvons apprendre aux enfants déjà de la maison. Par exemple, l'usage des poubelles. C'est-à-dire, quand je mange, une banane, la peau de la banane, je la jette dans une corbeille qui est appropriée pour ça.
Mais comment expliquer, d'ailleurs, on vient d'aborder un sujet à Lubumbashi où il y a des poubelles, mais les gens préfèrent jeter les immondices dans la rue ou tout autour de la poubelle.
Un enfant qui a appris dans sa famille qu'il faut jeter dans la poubelle, il ne jettera pas cette peau de banane à côté de la poubelle qui est installée en ville. Comme vous l'avez dit.
Ou dans un caniveau. Chez nous, ici, à Kinshasa, par exemple, les caniveaux sont transformés.
C'est ça l'avantage même, c'est ça l'importance, d'après moi, de l'éducation environnementale à la base. C'est pour moi vraiment le gage de la réussite. Si on réussit l'éducation environnementale à la base, je pense qu'on aura moins d'énergie à dépenser pour les personnes qui sont déjà adultes. Bon, moi, je le dis souvent, j'enseigne la communication socio-éducative. On ne peut pas s'arrêter, dire, par exemple, faire une campagne, deux campagnes et s'arrêter. Non, sinon, il y a des sociétés qui auraient arrêté avec la publicité parce que leurs produits sont connus. À ce concernant, dans le cas de la communication socio-éducative, on nous conseille, à ceux qu'on nous consulte, de continuer. Par exemple, faire une campagne sur six mois, trois mois de campagne, trois mois pour l'évaluation, etc. C'est pour cela, bon, parfois quand on regarde quelqu'un dans une prade bien fumée, pouf, il baisse et puis il jette
une peau de banane.
Une peau de banane. alors, les liens entre quelqu'un qui est dans une prado
et les gestes qu'il pose,
voilà, ça c'est pas un éco-geste. Il y en a qui disent, ah là, qui me boutent en vieux sale. Non, ça c'est pas un éco-geste. Alors, c'est pourquoi nous proposons à l'Université catholique, particulièrement à la faculté des communications, que nous devons commencer par une éducation environnementale à la base.
D'abord, en famille.
Oui, la base, il y a la famille.
La famille d'abord.
Parce que si on entend les mêmes choses en famille, on les entend à l'école, on les entend en grandissant, bien sûr, on les entend dans les milieux professionnels. Je pense que la mémoire va intérioriser et l'homme va intérioriser beaucoup de choses et beaucoup de gestes qui vont devenir automatiques.
Voilà, ces gestes vont devenir automatiques. Éducation environnementale à la base, quelle est son importance? Nous recevons aujourd'hui le professeur Hilaire Mbié Lumbala, docteur en communication sociale. Nous allons poursuivre tout à l'heure avec lui. Il est temps d'accueillir Jimmy, qui nous appelle de Manaka dans la province de l'Équateur. Doudou Kadima nous appelle aussi de Mbujimayi.
Radio Okapi encourage les jeunes talents congolais. Auteurs, compositeurs, interprètes, une adresse mail est à votre disposition. musique@radiokapi.net. Envoyez vos chansons. Après sélection, elles feront peut-être partie de la playlist ou d'une émission de Radio Okapi. Faites-vous connaître, des millions d'auditeurs vont écouter votre musique. musique@radiokapi.net. Allez-y, on vous attend.
Bien, nous allons à présent accueillir deux auditeurs. Jimmy, vous êtes en Mbandaka dans la province de l'Équateur. Bonjour. Jimmy, bonjour. Jimmy.
Ok, je soulève ma question. J'aimerais savoir à quoi sert qui est à la base des tremblements de terre dans l'environnement. Qu'est-ce qu'il faut éviter pour que ce genre de catastrophes naturelles ne puissent pas encore répéter?
Bon, Jimmy, on ne parle pas aujourd'hui des tremblements de terre. On parle de l'éducation environnementale. À la base, l'éducation environnementale au niveau de la famille, de l'école, de la communauté. Merci d'avoir appelé. Doudou Kadima de Mbujimayi, bonjour.
Excusez.
Oui.
Bon, j'ai vu que ça aussi appartient à l'environnement. Bon, comme ça, un peu de matière que nous pouvons faire pour éviter des catastrophes dans l'environnement.
Bon, ça, on va aborder ça dans une autre émission. Merci d'avoir appelé. Doudou Kadima de Mbujimayi, bonjour.
Bonjour, je dis bonjour aussi à l'invité.
On vous écoute.
Bonjour.
L'éducation environnementale, c'est une chose très, très importante, une chose très capitale dans la vie quotidienne. Vous verrez dans une famille, je dis, le parent qui devrait quand même éduquer les enfants. Par exemple, vous verrez le papa qui sort dans la douche, ni devant ses enfants. Bon, je ne vois pas comment ça peut vraiment éduquer les enfants. Même dans des milieux publics, vous verrez les gens qui trouvent la poubelle dans la rue, mais ils volent même ces poubelles-là. Même dans nos stades, vous verrez des agents de l'ordre qui vendent la chanvre donc aux fanatiques qui viennent pour assister au match. Alors, j'aimerais maintenant savoir à l'invité, à quoi sert vraiment cette éducation dans des milieux publics? C'est ça ma seule question.
Merci. Pompon de Lubumbashi, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste, et bonjour, professeur, docteur, qui est en train de nous traiter un bon sujet.
On vous écoute.
Bonjour.
Oui, monsieur Kassama, j'ai dit ceci. J'ai tout entendu. Le professeur docteur a parlé de la sensibilisation. De ne pas utiliser d'une manière bizarre l'énergie électrique, même les problèmes de la résidence en matière de l'eau. Mais je pose la question particulièrement au professeur qui est avec nous dans cette émission. Nous avons tout entendu. Ce qu'il faut faire, ça c'est, même du point de vue du ministère, il y a même l'éducation à la citoyenneté qui s'ajoute. Il y a des journées internationales pour l'éducation civique et patriotique. Maintenant, pour ne pas se baser seulement de la théorie, mais en tant que professeur docteur, qu'est-ce qu'il a déjà préconisé en RDC pour qu'on puisse avoir même, selon lui, même en termes de ONG, pour qu'il puisse être financé, pour essayer de changer la mentalité de la population congolaise, de comprendre pour assurer la vraie révolution de la modernité sur le plan du mental.
D'accord, merci Pompon. Professeur Hilaire.
Oui, je commence par Pompon. Qu'est-ce que j'ai déjà fait?
Pour changer la mentalité, hein, oui, déjà, voilà, par rapport à l'environnement.
Voilà, l'éducation environnementale, oui, a ses parties prenantes. Il y a les institutions politiques, il y a les entreprises, il y a les médias. Là, je lis les suis. Nous sommes dans une émission qui traite de l'environnement. Il y a les médias, il y a les ONG, il y a les chercheurs et les professeurs. En tant que professeur et chercheur, je suis aussi une partie prenante en ce qui concerne l'éducation environnementale. Et c'est pour ça que moi, j'ai initié la réflexion. Alors, chaque fois que j'organise une table ronde, que la faculté organise la table ronde, nous mettons autour d'une même table les décideurs politiques, les ONG, les entreprises, les médias, et nous discutons. Et chacun doit faire son travail. Bon, moi, en tant que chercheur, j'arrive à réunir ces décideurs, ces parties prenantes. L'État a déjà élaboré quelques lois, promulguées même par le chef de l'État. L'État a déjà pris conscience de cette éducation environnementale. Si vous lisez la nouvelle loi cadre, on parle bien. C'est pour ça que dans certaines écoles, on enseigne déjà les cours d'hygiène et environnement. On a déjà,
le cours est déjà inséré dans le programme.
Dans les programmes.
De certaines écoles.
Hein. Dans certaines écoles. La même loi stipule même que l'État garantit aux citoyens, à l'Assemblée des citoyens, pardon, les droits à une éducation environnementale. C'est l'article 4 de la loi sur l'environnement. Donc l'État doit nous garantir une éducation environnementale. Bon, peut-être, je ne vais pas ici pour revenir sur la loi. Il est prévu que certains arrêtés d'application soient signés par les ministres pour qu'on puisse bien étudier les modalités au niveau de l'État qui préconise l'éducation environnementale. Qui doit garantir, pardon, excusez-moi, l'éducation environnementale à tout citoyen. Alors, c'est l'État qui doit prévoir, qui doit arrêter des mesures d'application. C'est, bon. Mais en ce qui me concerne, moi, mon travail, c'est d'enseigner. Je l'explique à mes étudiants. J'ai tout un cours que je donne, communication et environnement. Et les projets à venir, c'est l'application des éco-quartiers. J'espère que Pompon me suit bien. S'il peut rester en contact avec moi.
Vous avez déjà mis en place quelques éco-quartiers, des groupes dans les quartiers.
Nous sommes en train d'y réfléchir. Oui. Le projet, c'est de travailler avec une commune pilote.
Laquelle vous avez déjà trouvé
une commune pilote? Souvent, nous sommes au niveau des réflexions, au niveau du projet. La commune à laquelle nous pensons, je dis bien à laquelle nous pensons, c'est la commune de Kimbanseke. Pourquoi souvent? Parce que son bourgmestre travaille toujours avec nous à chaque table ronde et il envoie des représentants. Alors, c'est la commune de Kimbanseke qui nous intéresse. Oui. Nous prendrons un ou deux
quartiers.
Deux quartiers et on va essayer
d'expérimenter l'éducation à la base, l'éducation environnementale à la base.
Oui. Alors si Pompon veut, là où il a le Lubumbashi, créer un éco-quartier, il peut entrer en contact avec nous. Et on va lui expliquer comment monter un écoquartier, quelle sera la mission d'un écoquartier. La mission d'un écoquartier sera, entre autres, de sensibiliser les riverains aux problèmes environnementaux, avec le but d'éviter la catastrophe. Par exemple, notre ami qui a posé la question.
Oui, il y a un auditeur, Jimmy, qui parlait Jimmy, des catastrophes naturelles.
Il y a des catastrophes naturelles, ça, on les appelle naturelles.
Oui.
Mais il y a des catastrophes que nous pouvons éviter. Par exemple, les caniveaux qu'on construit dans le cadre de l'urbanisation d'une ville, c'est pour évacuer les eaux. Mais ce n'est pas une poubelle. Mais quand nous transformons...
Mais vous allez trouver même certains des adultes à aller vider leurs poubelles dans les caniveaux et vous leur dites « Boyete, yonde mouto bonzamboko ».
Mais nous avons fait une enquête de 17 questions. Alors, si cette, parmi les 17 questions, il y avait une question, que faites-vous de vos déchets? Première question, première réponse, c'était je les donne au Banamatiti pour la ville de Kinshasa.
Oui.
Mais sur 100 interrogés, 75%, 75% de remettre leurs déchets au Banamatiti. Vous voyez que, bon, tout le monde, les Banamatiti, qu'est-ce qu'ils font de ces
qu'est-ce
déchets?
Qu'ils font de ça?
Ils vont jeter soit dans la rivière Kalamu, soit ils vont jeter. Alors qu'on a créé des centres de transit.
Des transits, oui.
Voilà. Il y a toute une éducation qu'il faut refaire. Pour du monde, il y a des centres de transit. Prenez calmement vos déchets ménagers, allez les jeter dans les centres de transit qui seront vidés quelques jours après. Et puis, et la ville de Kinshasa a déjà fait quand même un grand travail. Mais ce qui reste, c'est tout ce que nous appelons l'éducation citoyenne. Voilà. C'est cette éducation. Alors, si chacun de nous est bien formé, et si chacun de nous prend conscience que chaque geste qu'il pose détruit la nature, détruit l'environnement, il y a beaucoup de gestes que nous posons. Même nous qui sommes dans les médias, on parle de la communication responsable aujourd'hui.
Oui.
Quel type de matière je dois utiliser? Quels sont les matériaux que je dois utiliser, par exemple? Le papier que j'utilise, est-il un papier recyclable? L'encre que j'utilise pour imprimer. Bon, c'est dans tous les domaines où on doit vraiment... On a du travail. Mais bon, je suis enseignant. À 6 ans de la retraite. Bon, je pense que je continuerai. Mais je sais qu'il y a beaucoup à faire. Et chacun doit prendre conscience des gestes qu'il pose. Et en prenant conscience de ces gestes, on peut changer son comportement. Je dois avoir un comportement responsable.
Alors, mais pour changer les comportements, ce n'est pas quelque chose qui va se faire d'un jour à l'autre, parce que les mauvaises habitudes se sont ancrées depuis des très très longues années, et pour arriver à les extirper, ça demande du temps.
C'est difficile, ouais. Mais je trouve que si vraiment, c'est pour ça que nous, à la faculté de communication de l'Université catholique, notre point de départ, c'est la base. L'éducation environnementale doit commencer dans la famille. Si les enfants entendent les mêmes choses, en famille, à l'école et dans la vie de tous les jours, bon, il y en a parfois qui demandent, mais professeur, chez vous, qu'est-ce que vous faites? Je dis, bon, chez moi, je fais un effort pour apprendre aux enfants qui vivent avec moi qu'on ne peut pas laisser une lampe allumée. Par exemple, aujourd'hui, on demande d'utiliser les lampes à basse consommation. On fait même la publicité, je vois la SNL fait la publicité, il y a même certaines sociétés qui font la plus débat. Est-ce que nous avons déjà intériorisé cela? Alors, chez moi, une fois, j'ai demandé à la personne qui a fait les courses, pourquoi vous n'achetez pas ces ampoules? Elles coûtent cher.
Pour l'économique.
Économique. Oh, elles coûtent cher. Non! Comme moi-même, je prêche sur l'environnement, il faut que je sois moi-même aussi un modèle. Vous devez acheter des ampoules économiques.
Mais certaines personnes disent qu'elles coûtent cher, et s'abîment très vite, hein, ces ampoules-là.
Dans ma chambre, j'en ai une qui, depuis plus de six mois, et puis elle n'a pas encore chargé. Dans mon bureau à la maison, j'ai une ampoule économique, ça fait plus de 6 mois qu'elle est là. Alors, voilà. Le problème, c'est l'intériorisation.
D'accord. Je reviens à vous, le temps d'accueillir des auditeurs. Christian de Calémy, Alphonse Boudry, là, est à Ngbokolo, en province orientale. Christian, bonjour.
Bonjour, je dis Daniel Kachama, et bonjour aussi à l'invité.
Merci.
On vous écoute.
Oui, moi, j'ai bien suivi l'invité, et jusque-là, je vois que cette éducation est très nécessaire pour notre société. Et elle doit aussi commencer à la base, comme l'invité l'a dit. Mais l'invité ne pense pas que on promulgue une loi et cette loi n'est pas suivie, il y a beaucoup de circonstances qui font à ce que cette éducation ne soit pas bien pratiquée. Parce que nous remarquons, lui a dit qu'on commence à enseigner ses cours. Je crois que c'est seulement à Kinshasa. Mais ici, chez nous, et dans des milliers les plus reculés, les cours d'éducation n'est pas, cette éducation environnementale n'est pas pratiquée jusqu'à la base. Je voulais juste lui demander, est-ce quels sont les efforts qu'il est en train de mener au gouvernement pour que cette loi soit mise en pratique? On commence à enseigner ça dans les écoles périphériques, parce que lui dit seulement ça et nous le sentons, il le fait seulement à Kinshasa. Et tous les séminaires qu'il est en train de faire, c'est juste aux étudiants de Kinshasa et nous les autres étudiants qui se trouvent dans des milliers reculés, nous ne sentons pas tout ça. C'est dans ce sens que je voulais lui demander qu'est-ce qu'il est en train de mener au gouvernement pour que cette loi soit mise en pratique, comme on l'a dit toujours.
Merci.
Une loi sans suivi, c'est une loi morte.
Merci Christian.
Beaucoup, Daniel Kachan.
Merci Christian. Alphonse Boudry, là, vous êtes avec Mbokolo, bonjour.
Bonjour à l'invité, bonjour plus particulièrement à tous les auditeurs qui nous écoutent à Mbokolo Centre.
On vous écoute.
J'ai dit, chez nous vraiment c'est terrible, il y a par exemple les arbres qui souffrent atrocement. On est en train de casser les branches par exemple, quelqu'un avec une machette, il coupe, pour rien comme ça. Il y a déjà par exemple qui hurlent, donc pissent le long des routes, sans honte, et bon. Et d'autres, par exemple, peuvent déféquer le long des routes ou en brousse. Tout ça, ça ne les inquiète pas. Je voudrais maintenant savoir, je voudrais poser des questions, des petites questions. La première, c'est est-ce qu'il y a des spécialistes qui vont réaliser l'éducation environnementale à la base? Est-ce qu'il y a des spécialistes? Sinon, alors qui est censé réaliser cette éducation? Est-ce que c'est on peut se limiter seulement au niveau de la famille, de l'école et de l'église seulement? Et la dernière question, je dis, dans un milieu, par exemple, comme dans les coins les plus reculés, on trouve que cet enseignement est vraiment bon et d'ailleurs à louer. Maintenant, dans un milieu où il y a trop d'analphabètes, par exemple, le niveau d'études n'est pas assez intéressant. Alors, quelles sont les stratégies efficaces que l'invité peut nous donner pour que cette innovation réussisse à 80, à plus de 80? Merci.
Merci, Alphonse, depuis Mbokolo Centre. Oscar, vous êtes à Bukavu, au Sud Kivu, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste, bonjour à l'invité.
On vous écoute.
Bonjour.
Oui, je félicite beaucoup le professeur pour ce qu'il fait comme travail dans l'environnement. Mais je voulais dire ceci. Moi, je pense que si le gouvernement pouvait appliquer la loi telle qu'elle est définie pour l'environnement, je pense que tous ces problèmes ne pourraient pas se répercuter sur la population. Parce que nous avons des exemples d'autres pays. Là, vous trouvez que les gens qui ne sont même pas instruits, les gens qui ne sont même pas éduqués comme les Congolais, seulement, parce qu'on applique la loi, ces gens-là, ils sont en train d'observer des comportements qui favorisent leur pays. Par exemple, pour la consommation de l'énergie. Si vous traversez de l'autre côté, vous trouvez qu'il y a des gens qui n'allument pas nécessairement leurs ampoules. Vous trouvez qu'il y a des gens qui observent l'hygiène, parce que seulement, il y a tous les services de l'État sont mis en place pour appliquer ce qu'ils doivent faire. Il y a des villageois qui mettent des composteurs dans leur parcelle. Vous trouvez que, en tout cas, si vous entrez dans un milieu, vous ne trouvez pas de la santé. Alors, moi, je voulais demander au professeur, est-ce qu'il n'y a pas moyen de demander à l'État d'appliquer la loi sur l'environnement afin d'éviter ce genre de problèmes que nous connaissons ici au Congo?
D'accord.
Merci, je vous remercie.
Bien, merci. Revenons d'abord à la question de Doudou, qui a dit, professeur, tout à l'heure, qu'on place des poubelles dans les endroits publics. Certaines personnes ne jettent même pas les immondices dans ces poubelles, se permettent même de les voler dans les endroits publics. Alors, ils se demandent comment on peut résoudre une telle situation.
Bon, et c'est pour cela, c'est ça même qui justifie l'existence, l'importance de l'éducation environnementale
à la base.
parle d'abord tout court, l'éducation environnementale. L'éducation environnementale entraîne, parce que c'est un apprentissage qui entraîne aussi la culture environnementale. Est-ce que, au nom de la troisième table ronde, la question qui a plané était la suivante. Est-ce que les Congolais a-t-il une culture environnementale?
Et quelle a été la réponse à cette question?
Les réponses étaient multiples. Il y en a qui disaient oui. Les Congolais a une culture environnementale. Il y a un collègue professeur qui mène une recherche pour voir si nos ancêtres avaient le respect de l'environnement. Mais lui, il les trouve à travers les proverbes. Par exemple, à travers les proverbes, nos ancêtres donnaient d'une manière ou d'une autre une éducation au respect de l'environnement. Il disait par exemple, vous trouverez que par exemple, dans telle tribu, on ne mange pas tel animal, ailleurs on le mange. S'il est éteint de l'autre côté, mais la tribu où on n'en mange pas, il va exister, ça va créer l'équilibre, etc. etc. Bon.
Il y a une autre question.
Pour répondre à Doudou, c'est le problème de la culture environnementale. Donc, l'éducation environnementale nous conduira petit à petit à la culture environnementale. À travers certaines lectures, je me suis rendu compte qu'en France, par exemple, les recherches ont commencé à la fin du 19e siècle. Et ils ont eu leur premier ministère de l'environnement au début des années 70. Alors, mais chez eux, ça fait partie de presque toutes les parties prenantes, ils sont dedans. Alors nous aussi, notre objectif, c'est d'impliquer toutes les parties prenantes, en commençant par les institutions. C'est pour cela qu'il faut voir la charpente de nos invités. Il y a les ministres que nous invitons. Cette année, le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, c'est lui qui a prononcé le discours d'ouverture.
D'accord.
Et de clôture.
Oui.
Le ministre de l'Environnement a prononcé
Mais ça, c'est au niveau des scientifiques maintenant, à la base. Le problème,
oui,
on peut bien tenir des congrès, des forums.
Le rôle des scientifiques, c'est d'être la lumière de sa société. Nous posons les problèmes, je l'ai dit que nous avons soulevé le problème, nous avons soulevé les débats, mais nous invitons les différents représentants de parties prenantes. Bon, j'ai déjà amené les étudiants, par exemple, dans une société brassicole, dont j'étais le nom, pour ne pas faire la publicité. Bon, nous avons vu que cette société s'engage déjà dans le traitement des eaux avant de les jeter dans la nature. Mais petit à petit, il y en a qui prennent conscience. Bon, maintenant, à la base. Quand je parle de la base, j'ai déterminé les espaces que moi je considère comme importants à la base, notamment la famille, l'école, etc. etc. Mais il est prévu, la loi prévoit l'enseignement, donc l'introduction dans les programmes de l'éducation environnementale. La loi est de 2014. Je pense qu'on arrivera bientôt à l'appliquer.
Il y a un auditeur, Oscar, qui a parlé de Bukavu, qui dit que dans les autres pays, la loi sur la protection de l'environnement est tellement appliquée et les gens respectent, même les gens qui ne sont pas allés à l'école, les paysans, les villageois, ils respectent
les
principes.
Je suis totalement d'accord avec Oscar. Il s'agit ici d'une démarche qui a conduit à la culture environnementale. Nous venons de commencer au Congo. Peut-être Oscar, je ne connais pas son âge, il sera peut-être un des bons éco-citoyens de notre pays. Parce que nous, bientôt, ceux qui ont déjà 50 ans, 60 ans, est-ce que tout ce qu'on va leur raconter, ça aura un sens pour eux? C'est pour cela que moi, j'ai dit que l'éducation environnementale concerne tous les citoyens, de tous les âges et de tous les niveaux et de toutes les catégories.
D'accord.
Et j'en profite pour répondre à...
Il y a Christian qui a posé la question de savoir, vous êtes à Kinshasa, mais là-bas à Kalemi, vous avez même dit que dans certaines écoles, on a introduit les cours de l'éducation à l'hygiène et à l'environnement.
C'est l'environnement
et
l'hygiène. Ouais,
mais il dit là-bas de l'autre côté, il n'y a rien jusqu'à là.
Je ne sais pas. Si c'est un cours qui est dans le programme officiel, ça doit être enseigné. Mais moi, je me rappelle quand j'étais à l'école primaire, on avait un cours qui ressemblait à ceci. C'était le cours d'observation. On sortait, on allait dans la brousse, comme on était dans un milieu semi-rural, pour on nous montre les arbres, on nous montre ceci, on nous montre cela, on nous explique, c'était les coups d'observation. Moi, je trouve que ce n'est pas tard, ça va arriver, ça va arriver. L'essentiel est que la question soit posée. Et quand la question est posée,
oui,
on trouvera des solutions. Si ce n'est pas aujourd'hui, ça sera peut-être dans une année, dans deux ans, dans trois ans. Mais au moins, le débat est là. Je suis professeur, je suis enseignant, je ne suis pas décideur politique. Mmh. En tant qu'une des parties prenantes, je fais mon travail. Il faut que chaque partie prenante de l'éducation environnementale
joue son rôle. Là, et
joue
puis,
son
voilà,
rôle.
Et
les mais choses vont marcher. Notre travail, souvent, j'invite, il y a beaucoup d'ONG qui viennent. Qui donnent leur expérience. Il y en a peut-être, on n'a pas, c'est parfois l'occasion pour nous de voir, d'apprendre ce qui se passe d'une manière isolée par-ci, par-là. Il y a quand même des ONG qui sont aussi déjà dans l'éducation environnementale. Mais pas comme nous les définissons d'abord théoriquement, scientifiquement, et puis pour arriver à des applications.
D'accord.
Il y a, Alphonse Bougimaï qui a posé la question sur,
voilà, il a parlé des gens qui volent les poubelles.
Mais oui, c'est ça.
Ouais, voilà, vous avez déjà,
j'ai répondu.
Il y a Alphonse de Ngbokolo Centre qui dit, chez eux, là-bas, Ngbokolo, dans la province orientale, les gens coupent les arbres, n'importe comment, les gens se permettent d'uriner, de faire leurs besoins dans la nature, dans la rue,
voilà.
Même à Kinshasa, on rencontre également certains, ce genre de situations. Alors, il se pose la question de savoir est-ce qu'il y a-t-il des spécialistes qui enseignent ou qui éduquent la masse par rapport à la protection de l'environnement.
Pour sa question, rejoins ce que je viens de dire, c'est la culture environnementale. Si on a reçu l'éducation environnementale, on finira par intérioriser certains éco-gestes qu'on ne peut pas.
Qui doivent communiquer ces gestes ou cette culture?
Alors,
qui est censé communiquer cette culture environnementale?
Je dis que c'est tout le monde.
C'est tout
pour
monde.
Ça que je parle de la famille. D'abord, l'individu lui-même, chacun. Il y a la famille, il y a l'école, il y a les médias, et j'ajoute la communauté. La communauté dans laquelle on vit, c'est pour ça que je propose au niveau de la communauté la création des écoquartiers. Les écoquartiers que je comprends ici comme étant des groupes à taille humaine d'environ 15-20 personnes dont le rôle est de sensibiliser. Et qu'est-ce que je préconise comme moyen pour la sensibilisation? Par exemple, dans un quartier, l'organisation des focus groups, par exemple des petites conférences dans le quartier. Pourquoi pas faire des animations pour les enfants? Pour leur expliquer, par exemple, certains problèmes environnementaux. Dans une émission à la radio, on ne sait pas tout terminé.
Tout terminé.
Mais j'indique qu'il y a dans l'éducation environnementale plusieurs parties prenantes qui sont concernées. Mais quand on va à la base, moi je responsabilise la famille. D'abord l'individu lui-même, la famille, l'école, les médias. Mais qu'est-ce que les médias doivent nous présenter, par exemple? Quand vous prenez sur la plupart des chaînes, la partie récréative occupe plus de temps que les émissions éducatives, par exemple. Il y a combien de chaînes de télévision à Kinshasa? Et combien de chaînes ont une émission environnementale? Je peux me les compter au bout de ma main, une seule main. Parce que je les ai tous. J'ai invité tous les animateurs. À cette table ronde, tous ont répondu. Ils ne sont pas plus de 5 chaînes de télévision qui organisent des émissions environnementales. Parce que les gens aiment bien regarder la télévision, aiment bien regarder les théâtres de chez nous, le théâtre populaire et consorts. Il y a moyen d'utiliser
ces médias pour éduquer les masses.
Les médias peuvent éduquer la masse
masse par rapport aux gestes à poser pour protéger la
voilà, vous voulez dépasser le temps
à divertir les gens, les clips,
les
la clips musique
et on peut faire. J'ai dirigé un mémoire à Bel Campus l'année passée où l'étudiante propose sur les cahiers, au lieu que la société mette des publicités, qu'on mette une caricature à la 4e page d'un cahier.
D'accord.
Alors qu'on mette
un message
visuel que l'enfant peut utiliser. Par exemple, mon école n'est pas une poubelle.
D'accord.
Mon quartier n'est pas une poubelle.
Et c'est aussi une meilleure façon de sensibiliser, d'éduquer à la base. Professeur Hilaire Mbiyo Lumbala, docteur en communication sociale. Merci.
Merci beaucoup, Julie.